C'est l'histoire d'une femme qui a toujours fait avec ce qu'elle a. Et ce qu'elle a et ce qu'elle fait, c'est écrire. Une échappée avec Neige Sino, c'est Totémique jusqu'à la prochaine heure. En août 2023, Neige Sino publiait Triste Tigre, un livre où elle relate et pense l'inceste qu'elle a subi entre ses 7 et 14 ans. Triste Tigre continue d'avoir un retentissement mondial et Neige Sino l'accompagne en même temps que paraît son nouveau texte, La Realidad. La Realidad est un roman de formation, celle d'une femme d'une vingtaine d'années qui part en voyage au Chiapas. C'est un roman sur l'amitié et aussi sur la place que tiennent les livres dans une vie, dans la vie de tous les jours. Neige Sino est née en 1977 dans les Hautes-Alpes et elle a plus vécu au Mexique qu'en France, où elle est rentrée il y a quelques mois. Elle a d'ailleurs écrit La Realidad en espagnol avant de traduire le texte en français. Je l'ai retrouvée dans les bureaux de son éditeur, POL, et je décide de commencer par la fin, la séance photo de Totémique.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Alors.
Ah ouais?
c'est ce que vous arrache mon appareil, mon Polaroid.
Il est trop beau. Mais je suis pas un contre-jour, c'est vrai?
Moi j'aime bien le fait qu'il y ait les roses derrière. On essaye comme ça,
ouais,
d'accord?
On essaye.
Ok. Allez-y, prenez-la.
Je la mets au soleil ou pas? Pour que
ça... Non, je sais pas, ça va venir toute.
Si, ça vient.
On voit votre écharpe.
On voit mon écharpe, on voit les roses. Et voilà, c'est du passé. C'est fini.
Vous reconnaissez?
Pas trop. Je me reconnais jamais sur les photos.
Vous dites que c'est quelqu'un d'autre?
Non, je me dis pas que c'est quelqu'un d'autre, mais... Souvent, un visage, ça représente pas exactement ce qu'on est pour soi dans sa tête. Donc oui, bien sûr, je me reconnais, je pourrais dire c'est Neige, mais je suis toujours surprise de mon expression, de je ne sais quoi. Sauf quand elles ont déjà 20 ans. Je sais, il y a beaucoup de gens pour qui ça fait ça. Quand on se dit « Ah, j'étais jolie, en fait. » Donc ça me plaira sûrement dans 20 ans.
Pourquoi vous avez quitté le Mexique après y avoir passé 20 ans?
Je ne sais pas encore si j'ai quitté le Mexique. Là, je suis là depuis quelques mois. Il y a plein de raisons. C'est épuisant de vivre dans un pays où il y a tant de violence, où on est constamment sur le qui-vive.
À cause de la violence, justement?
Oui, à cause de la violence, à cause des cercles concentriques de la violence qui s'éloignent, qui s'approchent, qui est toujours là. C'était pas vraiment prévu de quitter le Mexique. Je sais pas si j'ai quitté le Mexique et je sais pas si je quitterai jamais le Mexique. Une chose étrange, c'est d'être ici, en France, après avoir vécu la moitié de ma vie à l'étranger. Je ne suis pas une étrangère, je suis née ici. J'ai grandi dans ce pays, j'ai grandi dans cette langue. Mais j'ai une sensation d'étrangeté. Je suis comme dans une espèce d'enquête, là. Une espèce d'enquête sur ma propre langue, sur mon propre pays, sur ma propre culture. C'est très étrange.
Vous avez perdu en français?
Oui, je pense un peu. Mon français n'est pas le même que si j'avais vécu les 20 dernières années en France, ça, c'est sûr. La langue, elle change. Donc, mon français, il est un peu vieux. Mon français oral, que je... Bien sûr, je parle français toujours avec mon compagnon et tout, mais les innovations de la langue, les expressions nouvelles, on les emploie très peu. On parle un français des années 2000, quoi. Mais après, ça, voilà, dès qu'on rentre en France, il y a une contagion de la langue. On se met à parler comme les gens qui sont autour de nous.
Alors, vous savez, par exemple, ce que vous dites aujourd'hui et ce que vous ne disiez pas avant de venir?
J'aime bien « badass », par exemple. C'est un truc que je ne disais pas du tout. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça.
Ça veut dire quoi, « badass » ?
Ça veut dire... je l'emploie surtout pour parler de femmes. Ça veut dire quelqu'un qui s'excuse pas d'être qui elle est, en même temps audacieuse et un peu... Oui, un peu subversive, mais de manière rigolote. Enfin, ça veut dire, pour moi, ça veut dire ça, mais je suis pas sûre que de l'employer exactement de la même façon que ce que j'ai entendu.
Ce serait qui pour vous une badass?
Ce serait qui pour moi? Je sais pas, je pense surtout à des copines, en fait. Des filles qui militent pour que je change... les politiques et l'attitude des gens par rapport aux violences faites aux enfants, elles sont très badass. Elles osent plein de trucs, elles débarquent dans des endroits, elles font... Ouais, je les admire. Moi, je suis pas comme ça, en fait. Je crois pas. Je suis pas quelqu'un qui va débarquer dans un meeting et interrompre des gens qui disent des horreurs. Je fais pas de performance théâtrale et tout, mais dans ma tête, je suis badass, bien sûr. Je m'excuse pas d'être qui je suis. Je dis ce que j'ai à dire, mais d'une façon un peu différente.
Alors, vous avez choisi une badass comme chanteuse.
Comme chanteuse, ouais. Oui, peut-être. C'est vrai, c'est vrai.
Badass parce que rockeuse, poétesse... Une femme qui s'appelle PJ Harvey, qui est une chanteuse britannique. Alors, vous m'avez proposé plusieurs morceaux.
Oui, parce qu'on m'avait dit un tube, alors je me suis dit qu'est-ce que je...
Moi, ce que j'ai choisi...
Qu'est-ce que vous avez choisi ?
J'ai choisi This Is Love. This Is Love de PJ Harvey est sorti en 2001.
Moi, quand je l'ai vu sur scène, c'était très bizarre. C'était aux arènes de Nîmes, où les gens venaient voir Noir Désir et n'avaient pas très envie de voir PJ Harvey. Et moi, je venais principalement pour ça, donc c'était assez bizarre. Et elle s'est pas démontée, évidemment. Elle venait faire son truc, mais du coup, c'était... Elle a une force et elle débarque, mais il y avait aussi une très grande douceur et une vulnérabilité que j'ai perçue aussi dans ce concert par rapport aux conditions particulières. Mais elle mélange quand même, elle trace sa route à sa façon à elle, qui est une façon entre violence et douceur. Pour moi, il y a beaucoup de douceur aussi dans tout ce qu'elle fait.
Ça, c'est un album du début des années 2000. Oui. Donc ce serait quel Polaroid de votre vie ?
C'était avant que je quitte la France. Pour moi, les souvenirs de ces albums-là, alors celui-ci puis les précédents, c'est des années d'étudiante, quoi. Les copains, les fêtes, les années où j'écoutais aussi beaucoup de musique parce que je faisais beaucoup de trajets dans le bus, dans le train pour aller entre Marseille et Aix. Je faisais mes études à Aix. Amis de mon âge aussi, on écoute beaucoup de ce qu'on écoutait quand on était plus jeune. C'est pas évident de faire entrer dans son monde des choses nouvelles et c'est comme des amis quoi, on a ses vieux amis et puis faire rentrer des nouvelles personnes dans son monde, ça se fait plus aussi facilement qu'avant. Moi j'y arrive avec les livres, je fais rentrer constamment de nouveaux auteurs dans mes... pas seulement mais les choses que j'admire mais aussi les choses avec lesquelles je vis. Donc j'aimerais bien que ça se passe aussi plus au niveau musical.
Comment vous vous êtes mise à lire, Neige Sino ?
Je me souviens à l'école, quoi, c'était génial. J'ai des souvenirs très anciens du plaisir de lire, de déchiffrer. Et donc je dévorais, je lisais tout comme... c'est des enfants qui découvrent la lecture, puis ils lisent tous les panneaux, ils lisent tous les trucs, ils lisent la boîte de céréales. Les enfants où... Il y a des personnages, hein, Don Quichotte, qui lit les petits papiers qu'il trouve dans la rue. Ben, j'étais comme ça, j'ai déchiffré tout, tout, tout.
Et après ce plaisir du déchiffrage, ça a été un plaisir de quelle nature, la lecture ?
De compagnonnage. Je sais pas si c'est les auteurs vraiment, mais enfin, d'être accompagné par ces mondes où on sait qu'on peut aller quand on a envie, quand on a besoin. Des possibles qui s'ouvrent. Vivre plus. Vivre à plus d'endroits, découvrir... Des espaces où on n'irait pas dans la vie.
Alors, avoir du plaisir à lire, c'est une chose, mais après, se mettre à écrire, c'en est une autre. Qu'est-ce qui vous a autorisé à le faire ?
C'est peut-être justement que personne ne m'a posé la question. Je me suis autorisée moi-même, je pense. Comme c'était un monde très personnel chez moi, ma famille ne lisait pas tellement. Il n'y avait pas de livres, en tout cas. Ben, c'était un peu suspect de lire beaucoup, d'être très intello et tout ça.
Suspect ?
Oui, c'est-à-dire c'était perçu comme... c'est pas pour nous, il y avait un peu ça. C'est surtout l'écriture, je pense aussi, qui était pas pour nous. C'est-à-dire, j'ai mis très longtemps à comprendre qu'il y avait des écrivains vivants. Le Clésio, je crois que ça a été le premier écrivain... J'ai compris que c'était un contemporain, un monsieur qui écrivait des livres. Les livres étaient des objets dans lesquels je me projetais et tout ça, mais j'ai un auteur, un nom d'auteur, ça renvoyait pas pour moi à une vraie personne qui écrivait des livres. Ça a mis un moment à se configurer dans mon esprit. Donc c'est pas que la lecture était pas pour nous, c'est que le monde des choses intellectuelles était un monde complètement inaccessible pour moi, quoi, au début. Et ça s'est construit petit à petit grâce au fait que j'ai fait des études. J'ai vraiment un parcours classique de quelqu'un qui trouve sa place grâce à l'université. Mais oui, c'était pas du tout une évidence.
Parce qu'il faut avoir le temps de lire, en fait.
Oui, il y a quelque chose d'un luxe. Il y a quelque chose d'une perception des gens qui travaillent beaucoup... J'avais l'impression, moi, dans ma famille, que c'était du temps que je prenais à des choses que j'aurais dû faire, comme des tâches domestiques. Et c'est vrai que je me souviens que je me sentais coupable, quand j'étais plus jeune, de m'autoriser à prendre ce temps pour faire une activité qui semblait non productive. Et j'ai peur, des fois, que toutes ces lectures et tous ces mondes intérieurs me coupent de la possibilité de vivre des choses. Parce que la lecture, c'est ce qu'on en fait. On peut en faire quelque chose de très négatif aussi. On a l'habitude d'insister auprès des jeunes. Moi, j'ai une fille de 13 ans, que la lecture, c'est bien, ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre des mondes et tout. Mais il y a des manières de lire qui sont des manières toxiques de lire, qui sont des manières néfastes, où ça peut devenir un écran entre nous-mêmes
et la réalité.
Et la réalité, et l'expérience, et la vie, et les autres. Ça me pose problème. Moi, je voudrais que ça soit constamment dans la vie. Donc, j'essaie de créer pour moi-même, mais pour mes lecteurs, mes lectrices, des chemins qui permettraient que ce que je donne à lire, ça soit en tout cas des choses qui ouvrent vers la vie. Faire en sorte que les livres, que le langage, que tout ce qu'on construit... ça nous rend plus aptes à vivre.
Et la première phrase, celle avec laquelle on entre dans le nouveau roman de Neige Sino, La Realidad, c'est « Ça a commencé par une histoire de livre ». Cette phrase toute simple renvoie au début d'un tube de la littérature mondiale, c'est « Voyage au bout de la nuit » de Céline, parce que la première phrase de « Voyage au bout de la nuit » c'est « Ça a débuté comme ça ». Moi, j'avais rien dit, rien. C'est Arthur Gannat qui m'a fait parler. Et si je reviens au début de La Realidad, ça fait « ça a commencé par une histoire de livres, moi, je ne voulais pas les prendre, mais Maga a tellement insisté que j'ai fini par céder ». Il y a d'autres références littéraires dans le texte de La Realidad, et en fait, peu importe si on les chope ou pas. Par exemple, Neige Sino cite ou écrit sur Antonin Artaud, Le Clésio, Bolaño, je n'ai pas lu deux de ces trois-là, et ça n'empêche pas de suivre La Realidad. En fait, je me suis dit que Neige Sino faisait la même chose que les rappeurs. Les rappeurs samplent des bouts d'histoire de la musique, les réinterprètent, et elle sample des bouts d'histoire de la littérature. Les artistes qui l'ont façonnée, en tout cas.
Je sais que je suis dans une lignée. Je m'inscris en dialogue avec c'est pas vraiment des maîtres, mais c'est des auteurs, des autrices qui m'ont précédée. Et je suis tout le temps en train de leur rendre hommage et en train de les trahir, en train de... Donc je rends hommage en les citant, en les mettant dans mes textes et tout, mais souvent, les gens que j'admire le plus, c'est ceux que je me permets de contester ou de m'opposer à leurs pensées ou d'utiliser ce qu'ils ont fait, mais d'une manière qui n'était pas exactement dans la même ligne que ce qu'ils ont voulu. Parce que je trouve ça riche et j'espère que, et je crois que les lecteurs et les lectrices qui me lisent font la même chose. On s'empare, on capture des choses dans un livre qui, tout d'un coup, ils appartiennent plus au livre, ça nous appartient à nous. et on a le droit de voler. On a le droit, enfin on n'a pas le droit justement, on se le donne. On se permet de voler des idées et de les transformer et d'en faire autre chose. Et ça, en même temps, c'est la façon dont la littérature est la plus vivante quand on se l'approprie et qu'elle fait partie du tissu de nos jours.
Extrait de La Realidad de Neige Sino. Au début, Necha et sa pote Maga, la vingtaine toutes les deux, partent en voyage au Chiapas. On voulait voyager, c'est-à-dire quoi ? Ça veut dire quoi, voyager ? On voulait ne pas être des touristes qui ne voient rien, ne pas chercher les endroits connus, juste se laisser dériver, faire la route, rencontrer des gens, sortir du monde étriqué. On voulait s'asseoir à une table avec des inconnus, ne pas avoir peur malgré la peur, ne pas montrer trop notre jeunesse, notre soif. Seuls les hommes nous abordaient. Mais très vite, ils nous invitaient chez eux. Et chez eux, c'était des maisons avec des familles, des problèmes de maison, des problèmes de famille. On s'attachait, on avait envie de rester, de se faire des amis et des ennemis, de se faire des vies nouvelles. On buvait du Nescafé dans des tasses en plastique, des petites bières fraîches à la bouteille. On riait, ma parole. Oui, on était folle. Du Chiapas à Porto Rico, voici Bad Bunny, Well Tita, c'est le titre de ce morceau.
Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo, tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo, tú te ves más bonita. Baby, yo sé, baby, yo sé. La vida así, la vida así. Ey, pero ponte el traje de baño, mami, que te voy a buscar. Te dejo mojadita, el sol te va a secar, sí, te va a quemar. Tú eres mi canción favorita. Y en repeat te voy a tocar, ey, te la voy a aplicar. Quiero dibujar corazoncito en la orilla. Tranquila, mami, yo te cargo la silla. Esos ojitos lindos, me encanta cómo brillan. Como una diosa puede ser tan sencilla. Ey. Y por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Tú me dices, si adentro o afuera. Debajo del agua, nadie se entera. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo, tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita.
Contigo me siento distinto. Hay algo cuando nos miramos. Y en el pozo nos dimos la mano. Así todo. Cuando no estoy en la buena, tú me llevas a hacer castillos de arena. Y los castillos se convierten en aldea. Un pueblito donde no existen problemas. Y ahí soñamos con un futuro. Que estemos bien no hace falta mucho. Por un segundo no olvidamos de todo. Aquí solo somos tú y yo.
Vamos a besarlo, frente a la sola.
Aunque sea de piquito, de piquito, de piquito.
Elle s'appelle Neige Sino, son nouveau roman s'intitule La Realidad et ça commence comme un voyage raté. Deux jeunes femmes, Necha et Maga, partent au Chiapas pour remettre deux gros volumes de théorie marxiste au sous-commandant Marcos, le représentant de la révolution zapatiste, le symbole de beaucoup de luttes émancipatrices. Et donc le voyage de Necha et Maga semble raté parce qu'elles ne rencontreront jamais Marcos. Je ne vous dévoile pas grand-chose, c'est le début du livre. En revanche, Neige Sino a voulu écouter la voix du sous-commandant Marcos pour Totémic. La voici donc dans l'émission « Là-bas si j'y suis » du 9 mars 2001 au micro de Daniel Mermet.
Ce que vous aviez inventé en 1994, c'est de dire « nous ne voulons pas le pouvoir ». Vous avez surpris en disant « nous ne voulons pas le pouvoir ». Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ?
Nous pensons que le pouvoir n'est plus dans les États nationaux.
El poder está en los grandes centros financieros.
Le pouvoir est dans les grands centres financiers.
En ese sentido, el problema no es quién está en el poder.
C'est pour ça que le problème, ce n'est pas qui est au pouvoir.
Sino la relación del poder con los ciudadanos.
Sino la relación del pouvoir avec les citoyens.
En ese sentido, nosotros pensamos que la lucha por el poder político...
C'est pour ça que nous pensons que la lutte pour le pouvoir politique...
Es la lucha por una mentira.
Est une lutte pour un mensonge.
Y finalmente, lo que vamos a hacer es cambiar una visión del mundo por otra visión del mundo.
Et ce que nous voulons, ce que nous allons faire, c'est changer une vision du monde contre une autre vision du monde.
Cette voix, elle me semble importante parce que c'est un porte-parole. Et c'est un écrivain aussi, c'est un poète, c'est quelqu'un qui raconte beaucoup d'histoires. Mais pareil, c'est une voix qu'on a entendue depuis les années 90, 94, le soulèvement. Et on l'entend encore aujourd'hui dans les radios communautaires du Chiapas, où il raconte beaucoup d'histoires pour les enfants. Et ce qui est génial, c'est qu'il a donc cette formation... marxiste-léniniste, qui est un langage politique qu'on comprend très occidental, mais ce qui s'est passé pour lui, et il le raconte très bien, c'est que quand il est arrivé au Chiapas et qu'il pensait appliquer des idées abstraites qu'il avait de sa formation politique dans un univers où il y avait de l'injustice et où vous avez besoin de ces idées, il s'est rendu compte qu'en fait il existait déjà une organisation et un langage et une façon politique de penser dans les communautés indiennes. Et là, c'est lui qui a dû apprendre et qui a dû se transformer. Et on l'entend beaucoup, non seulement dans la théorie, dans les choses qu'il raconte, mais aussi simplement dans la façon dont sa voix a changé et dans sa façon de raconter. Il raconte plus les histoires de la même façon. Il y a un côté un peu étrange pour nous, qui n'avons pas l'habitude de par exemple d'histoires qui durent très 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 longtemps avec beaucoup de digressions, avec des animaux, avec des petites paraboles, et ça c'est une manière de raconter que je trouve fascinante, que je trouve très intéressante.
Cette révolution zapatiste qui a vraiment qui a explosé en 1994 et qui a marqué une génération. Vous en 94 vous aviez quoi? Vous avez 28 ans?
Non, le bac 17.
17, pardon, donc je vous ai mis 10 ans de plus d'un coup là. Donc vous avez 17 ans. Cette révolution, elle a marqué cette génération-là pour l'utopie qu'elle proposait aussi. Parce que c'était, bah oui, le mouvement altermondialiste, c'est aussi un symbole de votre génération.
Oui, parce que pour moi, ma génération, c'est quand même vraiment une génération no future, ni nirvana. Moi, je me percevais comme ça, en tout cas, dans un monde un peu post-apocalyptique où il n'y avait pas de place pour nous au niveau politique. Et c'est vrai que j'ai découvert avec cette copine dont je parle dans le livre, mais plein d'autres amis, la possibilité de trouver une place dans les luttes sociales et que je n'imaginais absolument pas quand j'étais plus jeune. Et qui est devenu effectivement un chemin aussi de notre génération, l'altermondialisme, mais quand même dans un... C'était très sombre aussi pour nous l'avenir, hein. Oui, moi j'étais au lycée dans les années 90, à la fac dans les années 2000. C'était... Mais bon, est-ce que toutes les générations ne grandissent pas dans des moments sombres aussi? Mais on nous disait, comme on dit encore aux jeunes aujourd'hui, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'avenir. Il y avait déjà la crise climatique, il y avait des guerres partout. Et vous ne pourrez rien faire là-dedans. Et quand j'ai découvert petit à petit la possibilité de la lutte sociale, c'est-à-dire, c'est pas compliqué, hein, c'est juste le droit qu'on se donne de faire des petites choses, de s'engager. Là, alors moi, je suis toujours un peu suiveuse, donc j'ai jamais inventé les endroits où je me suis trouvée, je me suis toujours trouvée par hasard, à droite, à gauche, et on m'invite et on me dit « est-ce que tu veux participer ?» Et je me suis mis à participer à des trucs, et ça, c'est tout d'un coup, il y a du possible. Quand on participe, quand on réfléchit ensemble, quand on construit quelque chose, même tout petit, même faire une banderole pour aller à une manif, en fait. C'est ça aussi un enseignement très intéressant du zapatisme pour les autres luttes. C'est quand on se donne le droit de faire, avec les moyens du bord. Mais c'est très punk aussi, hein, c'est l'idéologie de faire soi-même avec ce qu'on peut, d'essayer de faire advenir le monde qu'on voudrait voir advenir. C'est-à-dire que l'utopie n'est plus un truc inaccessible, réservé à des élites ou à des gens qui sont au bon endroit au bon moment. L'utopie, c'est tout le temps présent.
Avec les moyens du bord.
Avec les moyens du bord. Oui, en tout cas, ça a été pour moi une expérience déterminante. Et ça le reste aujourd'hui. Je continue à vivre comme ça, avec les moyens du bord et... et tu bricoles comme tu peux avec ce que tu as. Alors toujours on est confronté à je vais pas réussir à changer le monde, je vais pas réussir à changer tout. Il y a quand même toujours cette contradiction là. On voit bien que dès qu'on commence à participer, on voit la montagne que c'est de changer les choses. Mais n'empêche que pour moi en tout cas, être présent et pouvoir faire des petits trucs, ça me donne une énergie où je suis plus enfermée dans cette position de le monde est atroce et j'y peux rien.
C'est être en mouvement quoi. Écrire, c'est ça en fait.
Oui, ça pourrait être ça, être en mouvement ou faire. Être vivant, c'est faire. C'est faire en sorte qu'il y ait des sentiers qui s'ouvrent où on a le droit de marcher, quoi. Encore une fois, je reviens au poids aussi qu'on a de tradition de pensée, ou une culture aussi où on se réfère toujours à ceux d'en haut qui savent mieux que nous, les experts qui ont les réponses et tout ça. Ça ne veut pas dire que je suis contre la science, évidemment. Je suis en faveur du fait qu'on ait des experts et des chercheurs et des gens qui savent mieux. Mais c'est important aussi de se permettre à soi de faire avec ce qu'on a.
Elle est franco-coréenne, elle vit à Los Angeles et se fait appeler Spill Tab, deuxième morceau de la BO de Totemic ce matin.
Deux ans, Neige Sinnaud publiait Triste Tigre, un livre où elle raconte et pense les viols commis par son beau-père entre ses 7 et 14 ans. Le livre fut un événement et littéraire et sociétal, dans le monde entier. Le roman que Neige Sinnaud publie aujourd'hui, La Realidad, a été écrit avant. Les voyages au Chiapas qu'elle y raconte, sa participation aux rencontres internationales des femmes en lutte là-bas, ces expériences-là ont mené Neige Sinnaud à écrire et à penser l'inceste qu'elle a subi, à écrire Triste Tigre.
Comment relier cette expérience-là que j'avais vécue en rencontrant ces femmes en lutte avec cette place que je voulais trouver pour moi-même à travers l'écriture? Et ça pourrait être une évidence, puisque j'ai été victime de violences sexuelles et mon moyen d'expression, c'est l'écriture, que je prenne la décision d'écrire sur ça. Mais en fait, non, il me faut tous ces détours et tous ces chemins pour prendre cette décision. Et le livre raconte aussi ça.
Là, le mois prochain, vous allez à New York parce que Triste Tigre est traduit en anglais. Mm-hmm. Donc, en fait, le livre est sorti il y a un an et demi, à peu près. Oui. Et vous continuez à le porter dans le monde entier, finalement.
Oui, je continue à le porter non seulement dans le monde entier, mais aussi je suis souvent invitée par des militantes, des militants dans des des rencontres qui ont à voir avec les violences sexuelles faites aux enfants. Je ne pensais pas que j'allais faire ça. Et à nouveau, on me propose, on me demande de participer à une lutte. Et je n'ai pas prévu de le faire. Et je pensais même que je ne voulais pas. Et je pensais même que je ne pouvais pas. Et je découvre qu'il faut que je le fasse. Et que c'est important pour moi. Et donc... Je me lance là-dedans, mais c'est étrange. Souvent, quand même, je dois changer d'avis. Donc, je ne m'imaginais pas. J'avais l'impression que j'avais fait assez avec le livre, que ça suffisait de parler de ça et que je ne pouvais pas faire plus que le livre. Et je le pense toujours, en même temps. C'est-à-dire que tout ce que je peux faire, je l'ai fait dans Triste Tigre. Mais on me demande de participer, on m'invite à participer à quelque chose qui a à voir avec un changement social que je souhaite voir advenir. Donc, je dis oui. Et voilà, il y a souvent, je sais, parce que je l'ai vu chez les autres, il y a un épuisement psychique dans le militantisme et dans le fait qu'on prenne part à toutes ces luttes. Et c'est normal. Et la seule façon que la lutte ne s'arrête pas et ne s'épuise pas, c'est qu'on ne soit pas seul dans cette lutte. C'est qu'on se passe le relais les uns aux autres. Et quand il y en a une qui est épuisée, ben les autres prennent le relais. Donc, j'ai le droit de dire non. J'ai le droit de dire j'ai besoin de temps pour écrire. Voilà, je ne me sens pas obligée non plus de me mettre à devenir un porte-drapeau, ce que je ne souhaitais pas. Et je pense que ce n'est pas ma place. Parce que c'est compliqué de parler pour moi. C'est compliqué d'être dans ces trucs. Là où je sens que je suis à ma place, c'est quand c'est dans l'écriture. Là où je peux faire le mieux ce que j'ai à faire, c'est dans l'écriture.
On passe à votre carte blanche.
On passe.
Alors, vous avez choisi de lire un extrait d'un poème qui s'intitule « L'âne », signé Roberto Alagno.
Est-ce que je lis le début en espagnol ? Je m'étais dit que je pouvais lire quelques lignes pour les fans. Parce que c'est un poème qui a des fans. L'âne, el burro. A veces sueño que Mario Santiago viene a buscarme con su moto negra. Y dejamos atrás la ciudad, y a medida que las luces van desapareciendo, Mario Santiago me dice que se trata de una moto robada, la última moto robada, para viajar por las pobres tierras del norte en dirección a Texas, persiguiendo un sueño innombrable, inclasificable, el sueño de nuestra juventud, es decir, el sueño más valiente de todos nuestros sueños. Et parfois je rêve que Mario Santiago vient me chercher, ou alors c'est un poète sans visage, une tête sans yeux, ni bouche, ni nez, juste de la peau et de la volonté. Et moi, sans rien demander, je monte sur sa moto et nous partons, sur les chemins du Nord, la tête et moi, étrange équipage, embarqué sur une route misérable, chemin effacé par la poussière et la pluie, pays de mouches et de lézards, de broussailles desséchées et de bourrasques de sable, le seul théâtre concevable pour notre poésie. Et parfois je rêve que le chemin que notre moto ou notre désir parcourt ne commence pas dans mon rêve, mais dans le rêve d'autres êtres, les innocents, les bienheureux, les doux, ceux qui, pour notre malheur, ne sont plus là. Et c'est ainsi que Mario Santiago et moi quittons la ville de Mexico, qui est le prolongement de tant de rêves, la matérialisation de tant de cauchemars, et nous remontons tous les états, toujours vers le nord, toujours sur le chemin des coyotes, et notre moto alors est de la couleur de la nuit, notre moto est un âne noir qui voyage, sans hâte, sur les terres de la curiosité, un âne noir qui se déplace à travers l'humanité et la géométrie de ces pauvres paysages désolés. Et le rire de Mario, ou de la tête, salue les fantômes de notre jeunesse, le rêve innombrable et inutile du courage. Et parfois, je crois voir une moto noire, comme un âne noir, qui s'éloigne sur les chemins de la terre de Zacatecas et de Coahuila, aux confins du rêve, et sans parvenir à comprendre son sens, sa signification dernière, je comprends toutefois sa musique. Un joyeux chant d'adieu. J'arrête là. C'est un texte qui m'est très cher. J'ai beaucoup de tendresse pour ce texte. C'est donc Bolaño et son copain. J'écris un livre sur la lecture et sur Bolaño, et j'avais un peu cette théorie dans ce livre que une des raisons pour lesquelles on écrit, ça peut être d'être à la hauteur des amis qu'on a eus. Et donc, ce poème, c'est ça, il fait revivre cette amitié qu'il a eue avec Mario Santiago. En même temps, une image très simple, hein, d'être sur une moto avec un copain, une moto qui est en même temps un âne. Il y a des liens avec ce livre que j'ai écrit sur la jeunesse avec ma copine, qui est aussi marcher sur une corde entre des abîmes, parce qu'on voit bien là que c'est le monde est dangereux autour d'eux, les gens meurent autour d'eux, et en même temps, en montant sur cette moto, c'est cette énergie de la vie avant tout qui est présente dans ce poème. L'épopée, c'est pas réservé aux héros de l'Antiquité. Nous aussi, en essayant de s'en sortir et en essayant d'aimer, en essayant de vivre, on est tous en fait dans des... Nos vies sont épiques parce que c'est déjà un exploit fabuleux de réussir à naviguer dans ce monde très très sombre sur notre petite moto.
Merci beaucoup, Neige Sino.
Merci à vous.
Et Neige Sino a mis en exergue ce vers de Bolaño, en exergue de la Realidad. Et moi, sans poser de questions, je monte sur la moto et nous partons. La Realidad de Neige Sino est publiée chez POL. Coyenne Guyenne, réaliste totémique, c'était avec Loïs Moreau ce matin. Perrine Malinge programme nos invités. Ilinka Negulesco assure la préparation et JB Audibert est à la programmation musicale. La semaine prochaine, Totémique, c'est un rendez-vous chez la comédienne Laura Felpin.